France Musique. Musicopolis. Gounod à Rome. Rome a toujours attiré les voyageurs. Nombreux sont les récits de voyages à toutes les époques qui relatent l'étape romaine. Lorsqu'il y est question de musique, alors c'est un sujet idéal pour un musicopolis. Si en plus c'est un musicien qui parle, notre joie n'a plus de bornes. Charles Gounod sera notre guide romain aujourd'hui, le guide de nos oreilles. Gounod a 20 ans lorsqu'il réussit le concours du Prix de Rome et gagne de ce fait la bourse qui va lui permettre d'aller passer 2 ans à Rome. Pour ce faire, il a composé une cantate joliment nommée « Fernand ». Il vient de fêter ses 21 ans lorsqu'il part en septembre 1839 pour la Ville Sainte avec 2 autres impétrants. D'abord par la Malle-Poste jusqu'à Marseille, puis en voiturin. Voiturin, c'est-à-dire une petite voiture attelée qui garde les mêmes chevaux d'étape en étape. On comprend par là que le voyage est long. On arrête les chevaux pour leur donner du repos, ce qui procure aux voyageurs de nombreuses et quotidiennes étapes. Le voiturin, écrit Gounod, m'a permis de jouir en détail de cette admirable route de la Corniche qui prépare si bien le voyageur au climat et aux beautés pittoresques de l'Italie. Tout cela, nous l'avons pendant près de 2 mois dégusté, savouré à notre aise.
La route est ouverte, la plaine est déserte. Fuyez, fuyez, hâtez-vous. Avant que l'aurore ne l'éveille encore, ne le gâche à nous. Avant que l'aurore ne l'éveille encore, ne le gâche à nous.
La route est ouverte, la plaine est déserte. Fuyons, fuyons, hâtez-vous.
Il est probable que Gounod, comme ses compagnons, attendait beaucoup de Rome. C'est pourquoi, à l'arrivée, la déception est cruelle. « Au lieu, écrit-il, de la ville que je m'étais figurée, d'un caractère majestueux, d'une physionomie saisissante, d'un aspect grandiose, pleine de temples, de monuments antiques, de ruines pittoresques, je me trouvais dans une vraie ville de province, vulgaire, incolore, sale presque partout. »
Lassé de tout, même de l'espérance, n'ira plus de ses voeux. Importuné le sang. Prêtez-moi seulement venant de mon enfance l'asile de jour pour attendre.
Oui, c'est visiblement un gros cafard qu'éprouve Gounod à son arrivée à Rome, si l'on en juge par cette mélodie qu'il compose peu après, sur un poème de Lamartine. Mais bientôt, la découverte de la ville et celle des habitants de la Villa Médicis, où il est logé avec les autres pensionnaires, va le rasséréner. L'accueil d'Ingres, le directeur, et la convivialité qui règne dans la villa grâce à lui, y sont certainement pour beaucoup. Et à son tour, Gounod va participer à la vie de l'institution en y apportant son talent et sa bonne humeur revenue. Il joue, il chante, il anime inlassablement les soirées.
Davanti agli occhi tuoi morir voglio.
Le passage de Gounod à la Villa Médicis l'a beaucoup marqué et a marqué aussi ses camarades. Le peintre Ernest Hébert, par exemple, bien des années plus tard, se rappelle quelques anecdotes. Un soir, raconte-t-il, nous étions réunis dans le salon directorial. Gounod était au piano. Monsieur Ingres, auprès de lui, ravi, enthousiasmé au comble de la joie. Il venait d'entendre le premier acte de Don Juan avec toutes ses parties admirablement rendues par le maestro. « Quelle musique !» s'écrie Ingres. « Quels accents, quelle passion, quelle âme dans tout cela !»« Avouez, mon cher ami, que les Italiens n'ont rien fait ni ne feront rien de pareil. » Gounod, dont les mains erraient sur le clavier comme s'il acquiesçait à ses paroles, commença doucement à jouer et à chanter de sa voix plus émouvante que jamais le petit chœur des chasseurs au lever du rideau du deuxième acte de Guillaume Tell. « Du village, la cloche sonne, c'est notre retour qu'elle ordonne, voici la nuit, voici la nuit. » Les dernières notes dans un décrescendo délicieux de modulations exquises, admirablement rendues. Monsieur Ingres s'était levé très ému. « Dieu, que c'est beau! Quelle inspiration! Mais où prenez-vous ces inspirations, mon cher grand ami, mon cher jeune maître ?»« Mais, monsieur Ingres, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de vous. Mais quel est donc le génie qui a trouvé ça ?» dit monsieur Ingres d'une voix retentissante. Alors Gounod, avec un peu d'embarras et souriant, « Mais, monsieur Ingres, c'est de Rossini ?»«
C'est de Rossini, ce charlatan !»
Et après un silence, « Eh bien, c'est égal, c'est admirable !» Et il s'assit, rêveur. Depuis cette soirée, M. Ingres ne discuta plus avec Gounod sur la musique italienne.
« Vous qui voulez passer, venez, panes errants, venez, avancez, tristes ombres, payez la tribu que je prends, pour retourner et réussir ces rivages sombres. Donne, passe, donne, passe, donne, passe, donne, passe, donne, passe, donne, passe, donne. Passe, donne, passe. Demeure-toi, tu n'as rien. Il faut que l'on te chasse.
On a vu comme Ingres est prompt à apprécier ce qu'on lui fait entendre et ne s'obstine pas dans ses jugements négatifs. Gounod lui-même raconte une autre anecdote à ce propos. « Je venais de lui faire entendre pour la première fois, écrit-il, l'admirable scène de Caron et des ombres dans l'Alceste de Lully. Cette première audition lui avait laissé une impression de raideur, de sécheresse, de dureté farouche, si pénible qu'il s'écria « C'est affreux, c'est hideux, ce n'est pas de la musique, c'est du fer !» Je me gardais bien, moi jeune homme, de tenir tête à cette impétuosité d'un homme pour qui j'avais un tel respect. J'attendis et laissai passer l'orage. À quelque temps de là, M. Ingres revint sur le souvenir que lui avait laissé son morceau, souvenir déjà un peu adouci à ce qu'il me semblait, et me dit « Voyons donc cette scène de Lully, Caron et les ombres. Je voudrais réentendre cela. » Je la lui chantai de nouveau.
Passe, devine-toi, tu n'as rien, il faut que l'on te chasse. Où paye, où tourne, je t'ai pas.
De grâce, barbetier, ne me remette pas.
La pitié n'est point ici-bas, et Caron ne fait point de grâce.
Cette fois, plus familiarisé sans doute avec le style primitif et rugueux de cette peinture si saisissante, il fut frappé de ce qu'il y a d'ironique et de narquois dans le langage de Caron, et de touchant dans les plaintes de ces ombres errantes à qui Caron refuse le passage dans sa barque parce qu'elles n'ont pas de quoi le payer. Peu à peu, il s'attacha tellement au caractère de cette scène qu'elle devint un de ses morceaux favoris et qu'il me la redemandait constamment.
Que l'on crie, hélas, Caron, hélas, hélas, il faut encore payer au-delà du trépas.
À Rome, pour ce qui est de la musique, Gounod est un peu déçu. À l'opéra, on représente toujours les mêmes Bellini, Donizetti et Mercadante que Gounod a déjà vus au théâtre italien à Paris avec les meilleurs chanteurs du moment et des mises en scène fastueuses. Il se souvient avoir assisté à une représentation de Norma dans laquelle les guerriers romains portaient une veste et un casque de pompier et un pantalon beurre frais de Nankin à bandes rouges cerises. C'était absolument comique, on se serait cru chez Guignol. Il ne trouve pas mieux dans les églises où la musique n'était même pas nulle, elle était exécrable. Le seul endroit qu'il apprécie, c'est la chapelle Sixtine, sous les voûtes de laquelle résonnent les hymnes du divin Palestrina. J'allais donc le plus possible à la chapelle Sixtine, écrit Gounod. Cette musique sévère, ascétique, horizontale et calme comme la ligne de l'océan, monotone à force de sérénité, antisensuelle et néanmoins d'une intensité de contemplation qui va parfois à l'extase, me produisit d'abord un effet étrange, presque désagréable. Était-ce le style même de ces compositions, entièrement nouveau pour moi ? Était-ce la sonorité particulière de ces voix spéciales que mon oreille entendait pour la première fois ? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que cette impression, pour bizarre qu'elle fût, ne me rebuta point. J'y revins encore, puis encore, et je finis par ne pouvoir plus m'en passer.
Thank you.
Lorsqu'il parle de ce qu'il a entendu à la chapelle Sixtine, notre Gounod devient lyrique. Écoutez plutôt. Il y a des œuvres, écrit-il, qu'il faut voir ou entendre dans le lieu pour lequel elles ont été faites. La chapelle Sixtine est un de ces lieux exceptionnels. Elle est un monument unique dans le monde. Le génie colossal qui en a décoré les voûtes et le mur de l'autel par ses incomparables conceptions de la Genèse et du Jugement dernier, ce peintre des prophètes avec lesquels il semble traiter d'égal à égal, n'aura sans doute jamais son pareil. La musique palestrinienne semble être une traduction chantée du vaste poème de Michel-Ange. Et j'inclinerais à croire que les deux maîtres s'éclairent, pour l'intelligence, d'une lumière mutuelle. Le spectateur développe l'auditeur, et réciproquement. Si bien qu'au bout de quelques temps, on est tenté de se demander si la chapelle Sixtine, peinture et musique, n'est pas le produit d'une seule et même inspiration. Musique et peinture s'y pénètrent dans une si parfaite et si sublime unité qu'il semble que le tout soit la double parole d'une seule et même pensée, la double voix d'un seul et même cantique. On dirait que ce qu'on entend est l'écho de ce qu'on regarde. Si la vie musicale romaine de 1840 n'est pas celle d'une grande capitale, comme elle peut l'être à Paris, à Londres ou à Vienne, du moins, Gounod a-t-il l'occasion de faire de la musique dans les cercles privés. Il y a du passage à Rome. Beaucoup d'artistes viennent y chercher l'inspiration, ou y passent en touriste, tout simplement. Fanny Hensel, née Mendelssohn, est arrivée dans la ville à l'automne 1839. Elle est reçue régulièrement au dimanche de la Villa Médicis et à son tour, elle invite les pensionnaires chez elle. Gounod la décrit comme une musicienne hors ligne, pianiste remarquable, femme d'un esprit supérieur, petite, fluette, mais d'une énergie qui se devinait dans ses yeux profonds et dans son regard plein de feu, et douée de facultés rares comme compositeur. Dans toutes les occasions, Fanny Hensel se met au piano de la meilleure grâce du monde et, comme dit Gounod, avec la simplicité des gens qui font de la musique parce qu'ils l'aiment. La jeune femme est toujours prête à faire entendre cette musique allemande que Gounod connaît mal. Celle de son frère Félix, bien sûr, mais aussi Bach et Beethoven. Thank you. Fanny Hensel fait découvrir la musique allemande à Gounod, une musique qui le trouble. Un soir, elle joue la sonate en ut majeur de Beethoven. Gounod en était comme fou d'enthousiasme, raconte-t-elle, et il finit par crier « Beethoven est un polisson !» Sur quoi ses amis, jugeant qu'il était temps de le mettre au lit, l'emmenèrent. Il était minuit et demi. Je vois encore, par le souvenir, raconte Ernest Hébert, son camarade à la Villa Médicis, Gounod, dans sa chambre numéro 5, à son piano, le soir, après le dîner académique. Tous les camarades autour de lui, assis comme ils le pouvaient, sur les quatre chaises du musicien, sur les coins de sa table, par terre, sous le piano ou sur des bouts de tapis, écoutant, dans un religieux silence, ce que l'incomparable interprète voulait bien nous donner. C'était souvent le beau cœur de la réconciliation des Montaigu et des Capulet dans le final de Roméo et Juliette de Berlioz, le chant de Caron dans l'Alceste de Lully, les deux grands morceaux de Max et d'Agathe dans le Freischütz que nous aimions beaucoup. Mais ce qui nous ravissait le plus délicieusement, c'était l'arrivée d'Orphée aux Enfers de Gluck. Non, personne n'a pu nous faire oublier la tendresse, l'émotion, la grandeur de style que mettait notre ami dans cette musique sublime. D'autres soirs, c'était les symphonies de Beethoven, dont il soulignait les passages exquis ou grandioses, en se tournant vers nous avec des regards enflammés. Il voulait bien aussi quelquefois, rarement, nous faire entendre ses compositions.
La voile ouvre son aile, la brise va souffler.
Nous sortions de là vers minuit, le cœur plein de reconnaissance et d'admiration pour notre camarade et brûlant du désir de faire, nous aussi, de grandioses chefs-d'œuvre pour l'honneur de notre pays.
Est-ce dans la Baltique, sur la mer Pacifique, dans l'île de Java, ou bien dans la Norvège, cueillir la fleur de neige, ou la fleur d'Ansoka? Jeune belle, où voulez-vous aller? La voile ouvre son aile, la brise va souffler. La brise va souffler.
Voulez-vous aller ? Mélodie de Charles Gounod sur un poème de Théophile Gautier, Camille Morane, bariton, avec Lily Bienvenue au piano. Et bien sûr, tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis.
La brise va souffler, la brise va souffler.
Cette équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Cédric Châtelus pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.